7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 25 janvier. Élysée 2022, les candidats face au 7-9. Vous le savez maintenant, c'est notre rendez-vous de campagne jusqu'à la présidentielle. Ce matin, Yannick Jadot est notre invité de 8h20 à 9h30. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Vous aurez largement la parole tout à l'heure et le standard est déjà ouvert et vous attend. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les prix du carburant battent des records à la pompe. Le gouvernement cherche comment soutenir le pouvoir d'achat. Réponse attendue d'ici la fin de semaine. On fera le point en début de journal sur les pistes privilégiées après les autres titres.
Plus de président, plus de constitution, frontières fermées au Burkina après le coup d'État. On vous présentera le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Damiba, formé en France. À la une, encore une nouvelle révélation et peut-être le coup de grâce pour le Premier ministre britannique. Boris Johnson aurait participé à un anniversaire surprise en plein confinement.
Oui.
En France, la filière CBD soulagée. Le Conseil d'État autorise à nouveau la vente de fleurs de chanvre. 20 000 emplois seraient préservés. Et puis un peu de cachet pour votre intérieur. L'ex-fou du roi de France Inter met en vente son mobilier et sa vaisselle royale. Si ça vous dit, plus de détails à la fin de ce journal.
Les invités d'Inter ce matin donc à 7h50 avec vous Léa.
Oui, le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est-il le point faible, le talon d'Achille de son mandat, attaqué par l'opposition qui parle d'un Waterloo sécuritaire? Le ministre de l'Intérieur répond ce matin. Gérald Darmanin sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure.
France Inter. Ne pas se brûler les ailes à la flambée des prix de l'essence. C'est le grand défi de l'exécutif face aux prix records à la pompe. Vous l'avez sans doute constaté, 1,654€ le litre de gazole la semaine dernière, 1,699€ le litre de sans-plomb 95. Ça pèse lourd sur le budget, malgré les mesures déjà prises par le gouvernement. Indemnité inflation, chèque énergie de 100€ pour les plus modestes en décembre dernier. Que faire de plus? Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Chef du service économie de France Inter. Une piste semble privilégiée.
Celle des indemnités kilométriques pour les contribuables qui déclarent des frais réels aux impôts. Bercy réfléchit à en relever le barème. La mesure aurait le mérite de pouvoir être mise en place rapidement, sans passer par la loi, de cibler ceux qui se servent beaucoup de leur voiture pour aller travailler. Mais elle exclurait de fait les salariés les plus modestes, ceux qui ne sont pas imposables. Les arbitrages sont encore en cours sur la voilure que devront prendre les mesures complémentaires promises par le gouvernement la semaine dernière. Il devrait être rendu dans les prochains jours, selon Bercy.
Et d'autres solutions, Fabien, sont encore sur la table?
Celle d'un nouveau chèque fait débat au sein du gouvernement. D'un côté, il y a ceux qui déplorent que la piste de l'indemnité kilométrique ne profitera pas au plus grand nombre et qui craignent de nouvelles mobilisations, type gilets jaunes. De l'autre, il y a ceux qui estiment qu'on a déjà arrosé large avec la prime inflation qui profite justement aux plus modestes. Gare à ne pas se faire accuser de clientélisme électoral, argumente-t-il à l'approche de la présidentielle. La seule chose qui semble sûre, Marion, c'est que la piste fiscale est exclu, pas de geste sur les taxes, ni le gouvernement ni la Commission européenne n'en veulent, au nom du coût que cela représenterait pour les finances publiques.
Fabien Cazot, merci à vous. Lui était favorable en son temps au chèque énergie. Que propose-t-il aujourd'hui? Une des questions à poser ce matin à Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle face au 7-9 d'Inter ce matin. Le député européen vainqueur de la primaire écolo devra composer à la fin de la semaine avec les résultats de la primaire populaire où son nom est proposé bien malgré lui. Yannick Jadot pourrait se heurter à un autre écueil, l'environnement n'est que la troisième préoccupation des Français selon le sondage Inter Ipsos Soprasteria. Yaël Gauz, officiellement, rien de tout cela n'inquiète pourtant les équipes du candidat.
Pas de panique, chacun son rythme. Nous, on n'invente pas un scandale par jour comme Éric Zemmour, argumente un proche de Yannick Jadot. Le simple fait qu'on nous dise qu'on ne décolle pas, c'est bien qu'il y a une attente, renchérit un dirigeant écolo. Et puis que voulez-vous? 80% de la bande passante est saturée par la gestion du Covid. Alors quand il y a le moindre espace, Yannick Jadot l'occupe à fond, comme lors de ce duel face à Emmanuel Macron la semaine dernière au Parlement européen.
Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique.
Un vrai moment de campagne, mais toujours dans sa zone de confort, tempère un cadre de LV qui ajoute « La présidentielle, ce n'est pas la campagne des européennes ». Yannick Jadot, identifié comme crédible sur l'environnement, bien sûr, beaucoup moins sur le social et le pouvoir d'achat. Or, c'est aujourd'hui la priorité numéro 1 exprimée par les Français. Autre écueil sur sa route, la primaire populaire dont on connaîtra le résultat dimanche soir.
Il nous empêche de faire campagne, qu'on nous laisse parler de nos propositions et qu'on arrête de nous embêter.
embêter, qu'on nous laisse gagner.
Oui, mais quelle sera la dynamique après cette primaire, sauvage ou pas? Quel que soit le vainqueur, on continue, a prévenu Yannick Jadot, convaincu que l'écologie n'est pas soluble dans une autre candidature.
Et Yannick Jadot face au 7-9, c'est à partir de 8h20 ce matin. Une autre candidature comme celle de Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux finalement favorable, comme les socialistes, à la piqûre anti-Covid obligatoire. Elle l'a dit hier sur France 5. En septembre dernier, la candidate avait refusé d'appeler les Guyanais à se faire vacciner. Yannick Jadot, Christiane Taubira et les autres, ils sont nombreux à vouloir se lancer pour le scrutin d'avril prochain. Encore faut-il avoir ces 500 parrainages d'élus. Les candidatures seront closes le 4 mars. Chez LR, Valérie Pécresse tient la corde avec plus de 500 signatures. Yannick Jadot les aurait dépassées lui aussi. Plus dur pour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan. Reporter à suivre dans le journal de 7h30 sur
Inter. Oui, il est 7h06, président introuvable, gouvernement et assemblée dissous, constitution suspendue au Burkina Faso.
Après les mutineries du week-end, les putschistes ont officialisé le coup d'État hier soir à la télévision. Fin de mandat pour le président Roch, Marc-Christian Caboret. Un message de sa main publié par la télévision publique officialise sa démission. Le pays du Sahel, rongé par le djihadisme, est désormais aux mains du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, autrement dit des militaires, Nathanaël Charbonnier.
Ce sont donc des militaires qui gouvernent le Burkina Faso et le nouvel homme fort du pays porte le nom de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le lieutenant-colonel Damiba pour être exact. Un militaire formé en France, il est notamment diplômé de l'école militaire de Paris. Un nouvel homme fort à qui l'on doit toute la série de mesures prises ce lundi, comme la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, la fermeture des frontières, ainsi que la destitution du président Caboret. Un président qui, malgré une réélection au premier tour il y a un an, n'a pas réussi à ramener la paix dans un pays où les actes terroristes ont coûté la vie à des centaines de soldats et à des centaines de personnes civiles. Le Burkina Faso rejoint ainsi le Mali, avec quelques mois de décalage, tout comme à Bamako, les putschistes de Ouagadougou promettent de rendre le pouvoir non pas à une date précise, mais dans un délai raisonnable. Et tout comme au Mali, le coup d'État se fait avec la condamnation de la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest.
À l'étranger encore, les Occidentaux menacent la Russie dans la crise ukrainienne. Inquiets de voir les soldats du Kremlin massés à la frontière, l'OTAN envoie navires et avions de chasse en Europe. 8500 soldats américains se préparent à un éventuel déploiement. Les États-Unis et leur président qui a laissé échapper la nuit dernière des mots fleuris à l'égard d'un journaliste de la chaîne conservatrice Fox News, interrogé lors d'une table ronde à la Maison Blanche. Joe Biden a répondu à une question sur l'inflation galopante dans le pays, puis prononcé clairement l'insulte Son of a Beach, retranscrite ensuite dans le compte-rendu de la réunion. Là, le dérapage est avéré. Nouvelle révélation sur les fêtes auxquelles a participé le Premier ministre britannique en plein confinement. Selon la chaîne ITV, à l'été 2020, Boris Johnson s'est retrouvé au 10 Downing Street entouré d'une trentaine de collaborateurs pour un anniversaire surprise. Récit à Londres du correspondant de France Inter, Richard Place.
Carrie Johnson, l'épouse du Premier ministre, pensait sans doute lui faire plaisir. Le 30 juin 2020, il a 56 ans. Il est 14h. Il se rend dans une salle du 10 Downing Street pour une réunion et tombe sur un petit groupe qui entonne « Joyeux anniversaire » en gâteau dans les mains, une surprise organisée par sa compagne. Aujourd'hui, le porte-parole du Premier ministre affirme qu'il est resté moins de 10 minutes. Rien à voir avec une fête, s'emporte la ministre de la Culture. Le leader de l'opposition s'empare évidemment de cette nouvelle affaire et Keir Starmer, le chef du Parti travailliste, demande une nouvelle fois la démission du Premier ministre. C'est un épisode de plus dans cet interminable feuilleton des fêtes pirates. Rien ne dit qu'il coûtera sa place à Boris Johnson, seule sa majorité peut en décider. Pour l'heure, les frondeurs n'ont pas réuni les 54 volontaires pour déclencher un vote de défiance à la Chambre des communes. Pour se décider, ils attendent sans doute le résultat imminent de l'enquête administrative en cours. Londres, Richard Place, France Inter.
L'ex-conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, conseille aux députés conservateurs, je cite, de lâcher le Premier ministre s'ils veulent mettre fin au cauchemar.
Il est 7h09, le coronavirus, Marion, continue de faire des victimes en France.
393 morts en 24 heures, un record pour cette dernière vague de la pandémie. Le nombre de patients Covid diminue en revanche légèrement en réanimation à 3776. En cause, entre autres, le variant Omicron plus contagieux, à l'origine aussi de sous-variants comme le BA2. Le point sur cette nouvelle souche sur notre site franceinter.fr. Près d'un mois après sa suspension par arrêté gouvernemental, la vente de fleurs et feuilles de chanvre est à nouveau autorisée. Décision du Conseil d'État hier soir. La nocivité des dérivés non psychotropes du cannabis ne justifie pas l'interdiction, selon les sages. Soulagement chez les commerçants qui vivaient de ces nouvelles tisanes, crèmes et onguents dérivés du CBD. L'avocat Charles Morel, président de l'Union des professionnels du CBD.
Ils vivaient dans la crainte et l'angoisse, et maintenant c'est une très grande satisfaction, alors même que sinon, évidemment, ces boutiques étaient exposées à une fermeture quasiment immédiate. Ça touchait 20 à 25 000 personnes, une filière, 2 000 magasins, sans parler après des autres acteurs. Ils vont pouvoir travailler dans la sérénité, sans crainte des perquisitions très inégales sur le territoire. Voilà, le CBD n'est pas un stupéfiant et ceux qui le vendent ne sont pas des trafiquants. Très clairement, je pense que cet arrêté, c'était une commande politique qui ne répondait pas à de réels besoins en termes de sécurité publique ni de santé publique. La suspension étant effective immédiatement, j'espère que le gouvernement va discuter aussi avec les organisations professionnelles représentatives du secteur pour une réglementation pragmatique, précise, sans idéologie et sans calcul électoral à la petite semaine.
Charles Morel joint par Mathilde Dehimi pour Inter. L'Open de tennis d'Australie autorise finalement les t-shirts de soutien à la joueuse chinoise Peng Shuai. Les organisateurs avaient d'abord banni des gradins ses vêtements estampillés d'un message de soutien à la sportive un temps disparue après des accusations de viol contre un dignitaire chinois. Les agents de sécurité jugeront finalement au cas par cas. Côté terrain, Gaël Monfils affrontera ce matin l'Italien Matteo Berrettini pour une place en demi-finale. Enfin, si vous rêvez d'un mobilier royal ou d'assiettes dans lesquelles des têtes couronnées ont peut-être mangé, cette vente aux enchères est pour vous. L'animateur télé Stéphane Bern vide sa maison parisienne. Il va emménager dans le Perche. Et l'ex-fou du roi de France Inter est en quête de financement pour restaurer sa nouvelle demeure, un ancien collège royal, Alexis Demeyer.
Adieu Pigalle, le spécialiste des têtes couronnées va enfin mener la vie de château. Mais son acquisition, un édifice du 17e classé monument historique et doté d'un musée, nécessite d'importants travaux de rénovation. Alors après plus de 4 décennies parisiennes, Stéphane Bern fait table rase, se séparant notamment d'une toile prestigieuse que nous présente le commissaire-priseur Benoît de Rouineau.
La pièce phare de cette vente est le portrait d'Elisabeth Christine de Brunswick, qui est la grand-mère de Marie-Antoinette. Donc c'est un portrait qui est assez rare. Nous espérons entre 20 et 30 000 euros. Pour ce tableau qui est très grand, qui mesure plus de 2 mètres et qui malheureusement ne retrouve pas de place dans sa maison du Perche à Thiron-Gardet.
Et pas de place non plus dans le Perche pour le mobilier Louis XVI de Stéphane Bern, ni pour ses services de porcelaine, ses souvenirs de mariage princier ou encore pour son lustre contemporain en bronze que ses amis lui avaient offert pour ses 50 ans. Et puis l'animateur vide aussi sa cave, des magnums de champagne, des grands crus bordelais, mais aussi, plus abordable, du rosé château de Berne avec une mise à prix à 10 euros les 6 bouteilles.
Début de la vente 14h pour le rosé et le champagne, on attend de goûter hein, Nicolas,
ouais, avec modération. Plaisir, oui, plaisir et modération.
Bien sûr.
Merci Marion Lourd, le zoom dans 3 minutes, la vie sous la cendre. C'est un reportage sur l'île de la Palma aux Canaries.